Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire L'aventure de la conscience, Sri Aurobindo, ou L'aventure de la conscience par Sat Prem. Et aujourd'hui, je me permets de vous dire, c'était l'anniversaire de Sat Prem. Alors, je vous lis le chapitre 15, qui est la conscience supramentale. La vision supramentale. C'est une vision globale. Le mental découpe des petits morceaux qu'il oppose les uns aux autres. Le surmental relie tout dans un seul faisceau, mais son faisceau n'aboutit qu'à un point. Et il voit tout de son propre point de vue. Il est unitaire et universel par exclusion des autres angles et par annexion. Le supramental voit non seulement le monde entier des choses et des êtres dans une vision unique qui relie tous les faisceaux sans rien opposer, mais il voit le point de vue de chaque chose, chaque être. Chaque force, c'est une rondeur de vue qui n'aboutit pas à un point central, mais à des myriades de points. Un unique regard innombrable. L'être supramental ne voit pas les choses de plein pied, entouré par la jungle des faits et des phénomènes présents, mais d'au-dessus, pas du dehors, d'après les surfaces, mais du dedans et de la vérité de leur propre centre. On ne peut donc rien comprendre au supramental si l'on ne se réfère constamment à une autre dimension. Mais on peut comprendre que c'est la vision même de la sagesse, parce que chaque chose, chaque être, chaque force ici-bas tend à un absolu qu'il exprime plus ou moins mal et souvent d'une façon tout à fait pervertie, mais à travers toutes ses erreurs et ses perversions, il obéit à une loi intime qui le pousse vers une vérité unique de son être. Il n'est pas jusqu'aux feuilles d'un même arbre qui ne soit pas unique. S'il n'y avait pas cet absolu au centre de chacun de nous, nous nous écroulerions. C'est pour cela aussi que nous sommes tellement attachés à nos petitesses et à nos erreurs, parce que nous sentons bien la vérité qui est derrière et qui grandit derrière, comme protégée, dit Sri Aurobindo, par cette petitesse et ses mêmes trébuchements. L'œuvre écrite de Sri Aurobindo offre une illustration pratique de la vision globale, encore que ce soit une traduction mentale d'un fait supramental. Elle est déroutante pour beaucoup, parce qu'elle manque de tous les angles qui rendent aisément saisissable une pensée, il est tellement facile d'être doctrinaire. Sri Aurobindo tourne littéralement autour de tous les points de vue pour en tirer la vérité profonde, et il n'impose jamais son propre point de vue, peut-être parce qu'il n'en a pas ou qu'il les a tous. Il indique seulement comment chaque vérité est incomplète et dans quelle direction elle peut s'élargir. Le supramental n'oppose pas une vérité à une autre pour voir laquelle tient le coup et survivra, mais il complète une vérité par une vérité dans la lumière de la vérité dont toutes sont des aspects. Une pensée assez grande, disait-il, pour pouvoir contenir ses propres contraires. C'est ce que la mère appelle penser sphériquement. On a toujours le sentiment d'être affreusement dogmatique et systématique quand on parle de Sri Aurobindo, sans doute par la faute de notre langage qui braque son fer, son phare, sur un point plutôt que sur un autre et creuse des ombres, tandis que Sri Aurobindo embrasse tout. Non par une sorte de tolérance qui est un succès d'année mentale de l'unité, mais par une vision indivise qui est réellement une, avec chaque chose au centre de chaque chose. Peut-être est-ce vraiment la vision même de l'amour. Cette vision indivise est si réelle que même l'apparence du monde physique est changée pour la conscience supramentale. Ou plutôt, elle n'est pas changée. C'est un monde physique qui apparaît tel qu'il est réellement. L'illusion optique séparatrice dans laquelle nous vivons s'évanouit. Le bâton n'est plus brisé, tout se tient. Le monde n'est pas comme nous le voyons. Pour le sens supramental, rien n'est vraiment fini, séparé. Fondamentalement, c'est le sentiment que tout est en chaque chose et que chaque chose est en tout. Il n'y a plus de mur, de limitation. C'est un sens océanique et subtil où chaque connaissance sensorielle particulière, chaque sensation est une vague et un mouvement ou un poudroiement ou une goutte qui pourtant est une concentration de l'océan tout entier et inséparable de l'océan. C'est comme si l'œil du poète ou de l'artiste avait remplacé la vision banale, ordinaire, qui ne voit rien, mais un œil singulièrement spiritualisé et glorifié, comme si vraiment c'était la vision du poète divin, comme si vraiment c'était la vision du poète divin suprême à laquelle nous participons. Et qu'il nous était donné la pleine vue de sa vérité, de ses intentions dans sa figuration de l'univers et de chaque chose dans l'univers. C'est une intensité sans limite qui fait de tout ce que l'on voit la révélation d'une gloire de qualité, d'idées, de formes et de couleurs. L'œil physique lui-même semble contenir un esprit et une conscience qui voient non seulement l'aspect physique de l'objet, mais l'âme de la qualité qui est en lui, la vibration d'énergie, la lumière, la force, la substance spirituelle dont il est fait. Et en même temps, il y a un changement subtil. Et l'on voit dans une sorte de quatrième dimension qui se caractérise par une certaine intériorité. On voit non seulement les surfaces et la forme extérieure, mais ce qui informe la forme et s'étend subtilement autour d'elle. L'objet matériel devient différent de ce que nous le voyons maintenant. Ce n'est plus un objet séparé qui se détache sur un fond au milieu du reste de la nature, mais une partie indivisible de l'unité totale et même d'une façon subtile une impression de l'unité de tout ce que l'on voit. Et cette unité est celle de l'identité de l'Éternel, l'unité de l'Esprit. Car, pour la vision supramentale, le monde matériel, l'espace et les objets matériels cessent d'être matériels au sens où ils le sont maintenant, de par leur seul témoignage de nos organes physiques limités. Ils apparaissent comme l'Esprit lui-même. Ils sont vus comme l'Esprit lui-même dans une forme de lui-même et dans une extension consciente. C'est un extrait de la Synthèse des Yogas, page 929 à 992. La vision globale indivise est aussi une vision éternelle. C'est la conquête du temps. C'est la conscience surmentale. Si la conscience surmentale voyait de larges extensions d'espace et de temps, la conscience supramentale enveloppe les trois temps. Elle relie passé, présent, futur et leur connexion indivisible dans une seule carte de connaissance continue, côte à côte. Le temps est un seul corps, l'espace un livre unique, Savitri de Sri Aurobindo. La conscience n'est plus un obturateur qui avait besoin d'être étroit parce que sans cette étroitesse, elle aurait éclaté. C'est un regard tranquille, comme un œil étendu dans le ciel, dit le Rig Veda, 1.17.21. La conscience individuelle, dit la mère, est comme un axe et tout tourne autour de l'axe. S'il bouge, on se sent perdu. C'est comme un grand axe. Il est plus ou moins grand. Il peut être tout petit, planté dans le temps, et tout tourne autour. Ça s'étend plus ou moins loin, plus ou moins haut, plus ou moins fort, mais ça tourne autour de l'axe. Et il n'y a plus d'axe, parti, envolé. Ça peut aller au nord, ça peut aller au sud, à l'est, à l'ouest. Ça peut aller en avant, ça peut aller en arrière, ça peut aller n'importe où, plus d'axe. Il nous est difficile d'imaginer ce que peut être la vision de cet individu universel et nous serions tentés de penser de notre point de vue mental qu'une connaissance totale des trois temps supprime aussitôt toute la surprise de l'existence. Mais c'est appliqué à la connaissance, à la conscience supramentale des normes et des réactions qui n'appartiennent qu'au mental. La façon de voir et de vivre le monde est totalement différente. La conscience supramentale n'est pas anxieusement penchée sur l'avenir comme nous le sommes. Tout est là sous ses yeux. Mais elle vit divinement dans le temps. Chaque seconde dans le temps est un absolu. Une plénitude aussi totale que les millénaires bout à bout. C'est au contraire la parfaite perfection du temps dans la vie ordinaire. Nous ne sommes jamais dans l'instant. Nous sommes projetés ou en avant ou tirés en arrière, par espoir ou par regret, parce que l'instant n'est jamais ce qu'il est, parce qu'il manque toujours quelque chose. Il est tellement creux. Tandis que pour la conscience supramentale, chaque chose et chaque instant pleinement ce qu'il doit être, comme elle doit être. C'est une béatitude constante, inaltérable. chaque séquence, chaque image du grand fil cosmique est pleine de toutes les images qui précèdent et de toutes celles qui suivent. Elle ne manque ni par absence d'avenir, ni par évanouissement du passé. C'est une joie absolument large et pleine, sans lacune, dit le Rig Veda. V62.9. Cette béatitude sans déchirure, dit Sri Aurobindo. De même, c'est la parfaite perfection de l'espace. Nous sommes perpétuellement en quête de choses nouvelles, d'objets nouveaux, parce que chaque chose manque de toutes les autres choses qui ne sont pas elles. Nos objets, comme nos minutes, sont creux, tandis que pour la conscience supramentale, chaque objet, chaque chose qu'elle touche est aussi pleine de totalité et d'infini que la vision des immensités et la somme de tous les objets possibles. L'absolu est partout. Chaque fini est un infini. C'est un émerveillement toujours renouvelé qui ne procède pas de la surprise, mais de la découverte de cette infinitude éternelle, de cet absolu intemporel en chaque chose, de l'espace et chaque fraction du temps. La conscience supramentale n'occupe pas seulement une position cosmique, mais une position transcendante. Et les deux ne s'opposent pas. Et non seulement elles ne s'opposent pas, mais leur simultanéité est la clé de la vraie vie. Car la vraie vie ne souffre pas seulement de ces objets creux et ces minutes hachées, mais de son manque de repos et de solidité. Toutes les religions, toutes les spiritualités sont issues de ce besoin fondamental de l'homme. Trouver une base permanente, un lieu de refuge et de paix en dehors de tout ce chaos du monde. Cette impermanence du monde, cette souffrance du monde, infiniment en dehors et protégé. Et tout d'un coup, au cours de notre quête, nous avons débouché dans un silence formidable, une étendue hors du monde. Et nous avons dit Dieu, nous avons dit Absolu, Nirvana, peu importe les mots, nous avons touché la grande délivrance. C'est l'expérience de base, si peu que nous approchions de ce grand silence-là, tout change. C'est la certitude, la paix, comme un naufragé qui a touché le roc. Dans la vie, tout nous coule des doigts, il n'y a que ce roc qui ne manque jamais. C'est pourquoi il est dit que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. L'expérience de Sri Aurobindo aussi avait commencé par le nirvana et elle finit par la plénitude du monde. Il y a là une contradiction centrale qu'il importe de saisir si nous voulons connaître le secret pratique de la vraie vie. Tranquille, profond comme la mer, il rit dans les vagues. Universel, il est tout, transcendant, personne. L'évolution n'a d'autre but que de trouver tout en bas, cette totalité d'en haut. C'est de découvrir sur la terre, au milieu même de ces dualités, de ces contradictions les plus poignantes, l'unité suprême, l'infinitude suprême, la joie suprême. Ananda, c'est pour trouver ce secret que nous avons été tirés en bas chaque fois que nous faisions un pas en haut. Chapitre 15, la conscience supramentale de l'aventure de la conscience de Sri Aurobindo, écrit par Satprem. Je remercie aujourd'hui infiniment la conscience supramentale de m'avoir fait lire ce texte de Satprem. Je remercie beaucoup Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Satprem, merci Stefano, Ganga Lakshmi.